Patrice Gélinet pour 2000 ans d'histoire.
Bonjour, aujourd'hui un des deux hommes les plus puissants de France à l'époque de la Régence, le cardinal Dubois. L'abbé Dubois était un petit homme. Tous les vices combattaient en lui. L'avarice, la débauche, l'ambition étaient ses dieux, la perfidie et la flatterie ses moyens, l'impiété parfaite son repos. Saint-Simon. D'histoire. Depuis le conseiller de Dagobert, Saint-Éloi, on ne compte plus les éminences grises que l'Église a données à la monarchie française. On sait le rôle que Richelieu et Mazarin ont joué auprès de Louis XIII et de Louis XIV, mais on a oublié un autre cardinal qui, pendant 8 ans, a exercé un pouvoir considérable dans l'ombre du régent Philippe d'Orléans. Le cardinal Dubois, dont Saint-Simon, qui ne l'aimait pas, disait qu'il était le plus grand coquin et le plus mauvais prêtre qu'il y ait au monde. Il est vrai qu'à l'époque du régent et de ses orgies, qu'on appelait joliment ses petits soupers, l'abbé Dubois connaissait mieux Machiavel et les auteurs libertins que les évangiles. Mais à l'époque, cela ne choquait pas grand monde. Ce qu'on lui reprochait surtout, c'était sa naissance et la manière dont ce fils d'apothicaire de Brive était arrivé au plus haut sommet de l'État, en formant avec le régent un couple étrange qui, pendant 8 ans, a gouverné la France, le cardinal Dubois et Philippe d'Orléans.
Dubois.
Je me demande ce qu'on pourra bien dire de nous quand nous serons disparus. Ce qui restera de notre passage. Pour Henri III, c'était les bals des mignons. Pour nous, ce sera les petits soupers.
Ouais, ça vaut mieux que rien. En tout cas, on parlera de mon dévouement, parce qu'avec mon ulcère à l'estomac et ma maladie de vessie, j'allais uniquement pour vous faire plaisir, vos pauvres dieux de souper.
Tu crois qu'on parlera de toi?
Si on parle de vous, on parlera forcément de moi, hein?
On dira qu'on était un couple bizarre.
Et ce couple bizarre, incarné dans ce film par Jean Rochefort et Philippe Noiret, c'était le régent Philippe d'Orléans et le cardinal Dubois, auquel mon invité d'aujourd'hui a consacré un livre. Jean-Pierre Thomas, bonjour.
Bonjour.
Alors, si dans les livres d'histoire, on parle souvent du régent, on connaît beaucoup moins son conseiller et ami, qui était le cardinal Dubois, dont vous dites même qu'il a joué un rôle considérable en France à l'époque de la Régence, c'est-à-dire au lendemain de la mort de Louis XIV et avant la majorité de Louis XV, un peu au fond comme avait joué avant lui, comme le rôle qu'avait joué Mazarin ou Richelieu.
Absolument, il est le troisième des grands cardinaux ministres, de ces grands artisans de la monarchie absolue, et pour qui il a œuvré pratiquement toute sa vie.
Alors, bardé de titres, à la fin de sa vie en tout cas, hein, principal ministre du jeune Louis XV, archevêque, cardinal, académicien, alors qu'il venait d'un milieu extrêmement modeste. Hein. Il faudra bien rappeler qu'il était né à Brive en 1656, c'était un fils d'apothicaire.
C'est un fils d'apothicaire et c'est un cadet en plus des fils d'apothicaire, ce qui fait qu'on l'a consacré à l'église très tôt, ce qui était le cas des cadets, et son parcours est absolument extraordinaire, ce qui montre bien que sous l'Ancien Régime, il pouvait y avoir des parcours personnels, ce qu'on ne dit pas assez. Cet homme va se retrouver au plus haut niveau de l'État en partant pratiquement du plus bas, parce qu'un apothicaire au XVIIIe siècle, c'est vraiment pas grand-chose, c'est à peine un domestique amélioré.
Alors, il était cardinal à la fin de sa vie, mais il a commencé comme abbé. Il n'était pas prêtre, hein, il n'a pas le droit de dire la messe.
Alors, il n'est pas prêtre, effectivement, mais ça, c'est pas tellement un problème. Vous savez que on célèbre cette année le bicentenaire de Napoléon, on en a beaucoup parlé. Pie VII, qui a célébré le sac de Napoléon, n'était pas prêtre non plus. Mmh. Ça ne choquait personne, c'est bien qu'il ne fût pas lui-même.
Et ce qui choquait personne aussi, il faut bien le dire, c'était que c'était pas un homme très croyant, le cardinal Dubois, enfin, ou l'abbé Dubois.
Alors,
quand
ça...
il était jeune. C'est vraiment parce qu'il était cadet de famille.
Tout à fait. Alors, est-ce qu'il n'était pas croyant? Ça, c'est très difficile à dire, difficile à affirmer. On sait que sa bibliothèque comportait beaucoup de livres théologiques. En fait, on ne sait pas très bien s'il était croyant ou pas. Là n'est pas la question. Il entre dans l'Église parce qu'il a des capacités. Vous savez que l'Église, c'est à l'époque, c'est un petit peu comme l'administration. Je veux dire, c'est la seule forme d'élévation pour les gens issus du tiers-état, du prolétariat. Et de même que le cardinalat, c'est la récompense des ministres plébéiens. C'est la seule façon qu'il a d'entrer au plus haut niveau, d'être couvert. Absolument, puisque le cardinal est un cousin du roi, donc il est absolument intouchable.
entrer un peu pour les mêmes raisons que Talleyrand plus tard rentrera dans les ordres.
Tout à fait, sauf que Talleyrand dit on m'a voulu d'église, on s'en repentira. Or Dubois était un homme d'église, tout à fait heureux d'être dans l'église. Apparemment, il n'en a pas voulu à l'église de l'avoir nourri et effectivement bien nourri, puisque c'est un, il va cultiver les bénéfices. Vous savez que là, Saint-Simon exagère souvent, mais il dit effectivement au début de la carrière de Dubois qu'il regardait les bénéfices accroupis comme un renard regarde une poule. Et là, je crois qu'on peut croire effectivement Saint-Simon. Il y a un désir d'élévation et surtout de besoin d'argent considérable.
Alors, qu'est-ce extraordinaire, c'est que c'est le parcours d'abord de ce jeune garçon qui quitte Brive, je crois qu'il avait à peu près 17 ans, pour aller à Paris faire ses études. Il y va à pied en plus, hein.
Il y va à pied par le comme on bougeait beaucoup. D'ailleurs, vous savez, les gens de Limousin avaient l'habitude. On dit que Paris a été construit par les maçons limousins. Donc pour un clerc, c'était normal. On marchait à pied. On trouvait le gîte et le couvert dans les abbayes tous les soirs. Et il arrive à Paris, mais effectivement plusieurs semaines pour y arriver. Et il arrive dans ce Paris tout seul, pauvre, inconnu. Et il va faire son trou relativement vite, à la fois par son talent et par un certain concours de circonstances, peut-être la chance, effectivement.
Et à cause du métier qu'il exerce, qui est celui de précepteur, alors là, il se fait remarquer. Et c'est comme ça qu'il va devenir le précepteur de Philippe d'Orléans, le futur régent, mais là on en est loin parce que Philippe d'Orléans, il a 9 ans à peine.
Hein. Il a 9 ans à peine, mais il est quand même le fils du premier prince du sang, donc il y a quand même une intuition extraordinaire chez Dubois qui restera difficile à exprimer. Pourquoi il va tant s'attacher à faire de cet homme un chef d'État, alors que rien au début effectivement ne peut prévoir qu'il exercera la responsabilité du pouvoir suprême. Est-ce qu'il le fait par un excès de zèle? C'est possible, ou est-ce qu'il y a la pression, c'est effectivement, qu'un jour les choses vont changer, c'est possible.
Et il va rester auprès, ils vont rester ensemble, tous les deux, le maître, c'est-à-dire justement le cardinal, enfin l'abbé Dubois encore, l'élève, Philippe d'Orléans, qui deviendra le patron de l'abbé Dubois, ils vont rester 37 ans ensemble, c'est assez extraordinaire cette vie commune, ils vont partager ensemble, Dubois va venir avec son maître à la guerre, il participe à des batailles. En revanche, il y a une chose, dans le film de Tavernier, dont on va entendre encore d'autres extraits, on croit toujours que Dubois était un débauché qui assistait à toutes les orgies auxquelles participait effectivement Philippe d'Orléans. Là, pas du tout. Il partage pas du tout les mêmes goûts que Philippe d'Orléans dans ce domaine.
Non, peut-être pas par vertu, mais tout au moins qu'il avait une santé assez faible. D'abord, c'est déjà un homme âgé pour l'époque. Il meurt à 70 ans, ce qui est déjà considérable. Aujourd'hui, c'est un âge normal. Et surtout, je pense que lui, il travaille. En fait, il y a une répartition des rôles. Il laisse son élève s'amuser. Lui-même assure la responsabilité de l'État. Dubois n'était pas un saint, mais à ma connaissance, on ne lui connaît qu'une maîtresse, Madame de Tencin, ce qui pour un cardinal n'est pas considérable. On avait vu qu'il avait bien davantage.
Elle avait une maîtresse et surtout une énorme ambition.
J'ai fait un rêve magnifique. Vous faisiez archevêque de Cambrai.
Ah, 120 000 livres de rente, tu n'y vas pas de main morte. Tu te vois, toi, Dubois, archevêque de Cambrai?
Ça t'amuse donc d'être archevêque?
Non, amuser n'est pas le mot, donc ça m'ennuiera de dire la messe. Je suis naturellement païen et difficilement chrétien, mais je pense à l'avenir. Et d'archevêque à cardinal, il n'y a qu'un pas. Et quand j'aurai la pourpre, personne ne pourra me l'enlever. Vous pouvez mourir avant moi, mais je ne serai plus rien qu'un fils d'apothicaire, même pas abbé.
Tu vas pas me dire que tu vas te mettre à croire en Dieu?
Non, pas encore. Mais quand je serai pape, qui sait?
Non, je ne sais pas si l'abbé Dubois, devenu plus tard archevêque, puis cardinal, voulait être pape, mais c'était un forcené ambitieux, c'est ce que vous écrivez en tout cas, Jean-Pierre Thomas.
Tout à fait, il est ambitieux à la fois pour lui et sa propre carrière, et il est ambitieux pour l'État. En fait, sous l'Ancien Régime, c'est souvent le cas, on mélange ses intérêts propres et les intérêts de l'État que l'on sert. Il y a, à l'époque, ça se fait sans aucune langue de bois, ça se fait en tout à fait officiel. L'homme public se remplit les poches officiellement. D'ailleurs, les gens ne comprendraient pas qu'il ne le fit point, puisque forcément le pouvoir c'est la puissance, donc il faut que l'homme du pouvoir soit riche, respecté, etc.
Alors cette ambition, il pourra la satisfaire grâce à Philippe d'Orléans, mais cela dit, d'ailleurs tous les deux sont ambitieux, mais ils sont tous les deux patients, parce que il faut rappeler donc qu'ils ont mis des années avant que Philippe d'Orléans devienne régent. D'ailleurs, une régence n'était absolument pas prévue, hein. C'était même impossible, a priori. Louis XIV, il faut rappeler, avait un fils qui était le grand dauphin, deux petits-fils qui pouvaient régner, deux arrière-petits-fils. Et alors, en 1711 et 1712, en l'espace de quelques mois, et 3 ans avant la mort de Louis XIV, et tous meurent, sauf le dernier petit-fils qui reste, c'est-à-dire le futur Louis XV. Et là, la régence revient donc à Philippe d'Orléans. Pour quelle raison, d'ailleurs, c'est Philippe qui doit devenir régent?
Eh bien, parce que la tradition veut que ce soit le premier prince du sang lorsque l'enfant roi n'a pas de parents. Or, Louis XV, bien sûr, n'a plus de père, et il n'a surtout plus de mère. Donc, il n'y a plus de régente, comme ça avait été le cas pour Anne d'Autriche ou Marie de Médicis. Donc, c'est le premier prince du sang qui devient effectivement le régent.
Alors, il était, il faut le rappeler, le régent, Philippe d'Orléans, pas encore régent, était en disgrâce hein, à l'époque, et brusquement, évidemment, à partir de 1712, tout le monde dit, en attendant la mort de Louis XIV, tout le monde se presse autour de lui, et de l'abbé Dubois.
Absolument. L'antichambre se vide et se remplit, donc quand il est en pleine disgrâce, tout le monde le fuit, et dès que le roi meurt, on se précipite, il y a un espèce, raconte les mémorialistes, de mouvement de tonnerre, c'est-à-dire toute la cour, il faut imaginer pratiquement un millier de personnes qui se précipitent dans l'appartement du régent, et tous ceux qui le détestaient, l'adulte, ça c'est tout à fait le pouvoir qui attire effectivement tout le monde.
Alors donc, Philippe d'Orléans devient régent à la mort de Louis XIV en 1715, et il garde auprès de lui l'abbé Dubois, qui au début occupe une passe assez modeste et surtout est discrète. Il est tout de suite, Philippe d'Orléans lui dit « Restez à côté de moi », il est son principal conseiller, mais au début, il n'apparaît pas trop.
Non, il joue un rôle occulte et de toute façon qui est proportionnel à sa mission, qui est la mission, l'extraordinaire renversement des alliances auxquelles il se prête, c'est-à-dire qu'en fait, les deux hommes vont se répartir les tâches, comme ils le feront toute leur vie d'ailleurs. Philippe d'Orléans s'occupe de la politique intérieure et Dubois s'occupe de la politique extérieure. Donc tout de suite, comme le rôle est occulte, c'est-à-dire que Dubois va faire la paix avec le principal ennemi de Louis XIV, l'Angleterre, et contre l'avis du gouvernement français, contre l'avis du gouvernement anglais. C'est une paix qui s'est faite d'une façon tout à fait officieuse au début, et qui sera officielle par la suite, qu'on va imposer aux deux peuples, d'ailleurs avec un symbole, qui est l'achat du diamant le régent, qui est tout simplement acheté pour corrompre le principal opposant anglais à cette paix, tout simplement, l'achète ce bijou, qui est le prix de 3 vaisseaux de guerre, mais la paix n'a pas de prix. Peut-être un mot, effectivement, c'est d'ailleurs la principale œuvre de la régence, enfin, il y a deux œuvres de la régence. Je dirais la première, c'est le seul gouvernement à ma connaissance qui est totalement résorbé le déficit budgétaire, je crois que ça n'est jamais arrivé depuis. Et le deuxième, c'est surtout celui qui apporte 25 ans de paix à l'Europe. Et la paix, ça n'a pas de prix, même le prix d'un diamant.
C'est presque en réaction, au fond, au règne de Louis XIV. D'ailleurs, à sa mort, Louis XIV, et en présence d'ailleurs du régent, et je pense qu'il y avait aussi peut-être l'abbé Dubois qui n'était pas éclat, à sa mort, Louis XIV disait à son fils, Louis XV, qui avait 5 ans, hein, donc, mais surtout en présence du régent, j'ai trop fait la guerre, etc. Et c'est vrai que, et Dubois, et le régent veulent la paix et cette paix extraordinaire avec l'Angleterre. Il faut rappeler, vous le rappelez, Jean-Pierre Thomas, ces deux hommes étaient très anglophiles.
Absolument, ils sont anglophiles par tradition, par éducation, et ils sont surtout des passionnés de paix, parce que ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que la régence va reprendre à son compte toutes les théories de Fénelon, et c'est-à-dire la paix européenne. Ce sont des gens qui envisagent non seulement la paix, mais qui envisagent même un ordre futur régissant l'Europe. Donc il y a pratiquement la Commission européenne d'aujourd'hui est en germe dans la pensée de Fénelon et de ces hommes-là. Ils détestent la guerre, c'est à la fois par conviction philosophique et c'est surtout aussi par tout simplement par bon sens. La guerre de Louis XIV ont épuisé la France. Ce n'est pas Versailles qui a coûté cher. Si Louis XIV n'avait pas fait la guerre, on aurait pu construire 10 Versailles. C'est tout simplement la guerre. Ils vont arrêter cette guerre. C'est comme ça qu'ils vont résorber en partie le déficit de l'État et c'est comme ça qu'ils vont faire entrer la France dans le beau XVIIIe siècle. Cette grande révolution démographique, le règne Louis XV commence dans la paix.
Et au début, le règne de Louis XV, c'est la régence, hein, puisqu'il est trop jeune pour régner. Qui gouverne, c'est donc Philippe d'Orléans. C'est évidemment à côté de lui l'abbé Dubois, et qui met en place tous les deux, d'ailleurs, un régime assez libéral par rapport à celui qui était celui de Louis XIV. À la fin, il respecte beaucoup les parlements. Ça dure 3 ans, mais il y a eu une espèce de démocratie qui s'est installée presque en quelque sorte au début de la régence.
Oui, en fait, il n'avait pas le choix, parce que en fait, si Philippe d'Orléans a le pouvoir, c'est parce que tous les opposants de Louis XIV l'ont porté au pouvoir, l'ont accepté qu'on casse le testament de Louis XIV. Et Montesquieu le dit bien, Louis XIV avait fait ceci, c'était une bonne raison pour que l'on fît tout le contraire. Donc effectivement, pendant 3 ans, toutes les oppositions à Louis XIV, c'est-à-dire essentiellement les parlements, les jansénistes, les libertins, Philippe fédère, vous savez, c'est un peu comme François Mitterrand au Congrès d'Épinay va fédérer des contradictions, il fédère tout le monde, mais forcément ça ne va pas éternellement marcher, il faudra bien que le pouvoir se reprenne effectivement un visage.
Et il va reprendre un visage absolutiste en 1718, suite, les deux hommes, Dubois et Philippe d'Orléans, le régent, font un véritable coup d'État. Et on revient à l'absolutisme Louis XIVien, en fait.
Absolument, on revient aux vieilles méthodes de gouvernement.
Et pourquoi ?
Eh bien, parce qu'on s'aperçoit que ça ne marchait pas et que, en fait, ces deux hommes sont des absolutistes. Ils se rendent compte que la France ne peut fonctionner que dans l'absolutisme, parce que la tradition française est ainsi faite. On pourrait s'en parler pendant des heures. Et que, surtout, ils veulent le pouvoir pour eux-mêmes. Ils veulent en jouir un maximum. Et c'est là où le régent, selon son mot, envoie tout le monde se faire foutre. Car c'est bien ce qu'il dit lui-même. Donc, il reprend le pouvoir.
Absolutiste et même brutaux, d'ailleurs, lorsqu'en 1720, après avoir laissé se monter une conspiration rocambolesque contre le régent, Dubois faisait exécuter 4 de ses meneurs, dont le marquis de Pontcallec.
Notre exécution a lieu devant un grand concours de peuple.
L'exécution, hein ? Mais ils ne sont pas encore jugés.
Je dis un grand concours de peuple. Le spectacle en vaudra la peine. 4 têtes tomberont tout de suite. Et 20 autres après.
Je veux que l'échafaud soit dressé au pied du château. Et que 6 canons soient pointés contre la ville pour prévenir toutes les meutes.
Les meutes ? Mais pourquoi ce fou de Pontcallec que personne n'a jamais pris au sérieux ?
N'avertissez pas le complot, monsieur le conseiller. Voilà, il était gigantesque. Nous avons réprimé quelque chose de formidable.
C'était Aux douleurs, extrait de Pinté, composé par Philippe d'Orléans, avant qu'il soit régent en 1705.
Oui, le seul chef de gouvernement français qui a composé et qui jouait lui-même, effectivement. Je crois qu'il n'y a pas eu d'autres exemples, sauf, tout le monde l'a oublié, Albert Lebrun, dernier président de la Troisième République, qui jouait du piano et quand sa femme jouait du violon. Voilà, c'est assez rare en France.
Alors on a entendu avant cette musique du régent, on a entendu cette exécution qui aura lieu à Nantes, décidée par l'abbé Dubois, il n'est pas encore archevêque ni cardinal, c'était en 1720. C'était quoi cette conspiration de Pontcallec, qui est aussi au centre d'ailleurs du film de Tavernier, où Pontcallec est joué par Marielle? Ça paraît complètement rocambolesque, Jean-Pierre Thomas.
Mais alors, c'est un côté rocambolesque, toute la Régence, là, effectivement, et c'est pour ça qu'Alexandre Dumas l'a repris. Les romantiques ont adoré la Régence, parce qu'elle a un côté cap et épée, effectivement. Bah, Pontcallec, en deux mots, c'est un breton qui soulève la Bretagne contre le régent. C'est au nom des vieilles revendications, toujours financières sous l'Ancien Régime. Bon, c'est assez curieux parce qu'en fait, la Bretagne est la région qui paye le moins d'impôts, mais on trouve qu'on paye trop d'impôts. Donc, Pontcallec soulève la Bretagne. C'est une émotion populaire au sens où on l'emploie sous l'Ancien Régime. Simplement, ce que Pontcallec ne comprend pas, c'est qu'il s'acoquine avec les Espagnols, qu'il est coupable de
les ennemis, hein. Voilà. Nous sommes alliés des Anglais, mais ils sont encore nos ennemis.
Tout à fait. Alors, en fait, il soulève il est vraiment dans la haute tradition, mais bien que finalement personne ne le prenne au sérieux, pas même les Espagnols qui éviteront de débarquer, mais il va devenir effectivement le symbole, il va se faire prendre, vous savez qu'il écrit au régent, et le régent il se cache dans la langue bretonne, le régent lui dit « Monsieur Pontcallec m'écrit, mais il ne me donne pas d'adresse où lui répondre », donc finalement on arrive à l'arrêter, et en fait je pense que Pontcallec et toute la province attendaient le pardon royal du régent, et sans doute sous l'influence du Dubois il n'y a pas de pardon, et la tête de Pontcallec et de ses 4 complices, après d'ailleurs un procès unique où il n'y a eu ni défenseur ni aucune forme n'a été respectée, sont décapités à Nantes. Ce qui est une fois de plus montré qu'on ne transige pas avec la raison d'État.
C'est pour l'exemple alors.
C'est pour l'exemple, c'est une exécution pour montrer que, symbolique.
Ouais, voilà, pour montrer qu'il n'y a pas intérêt à s'agiter contre le régent. Il faut toujours
contre l'État. Contre l'État.
Voilà. Surtout que l'État est toujours très faible à l'époque d'une régence. On se souvient de la Fronde après la mort de Louis XIII, et c'est peut-être de ça qu'ils avaient peur au fond.
Absolument, la monarchie est toujours fragile, et surtout dans les temps de régence, qui sont en général les temps de troubles, où on essaye effectivement, une faction ou l'autre pousse contre toujours la monarchie absolue, toujours incarnée par l'État, toujours incarnée par ses cardinaux, toujours incarnée par Dubois, à ce moment précis.
Et on critique d'ailleurs Dubois, qui est très très critiqué à l'époque, il y a des tas de pamphlets contre lui, plus encore que contre le régent, il devient un peu la bête noire de l'opinion publique.
Voilà, je crois qu'ils sont répartis la tâche, Alain qui joue le rôle, comme je l'ai écrit, du roi de cœur, l'autre le valet de pique, mais Dubois s'en moque, il dit je suis un vieux cheval de trompette, on peut se moquer de moi, je continue à faire ce que je veux. Et il dit même à toutes les critiques qu'on lui fait, à un moment, on lui renvoie toujours cette qualité d'apothicaire, il a ce mot extraordinaire, il dit je vais les envoyer en exil à Brive, comme ça ils pourront tout à loisir observer tous les jours la boutique de mon père.
À Brive, d'ailleurs, il n'a jamais remis les pieds depuis qu'il l'avait quitté. Il n'est jamais retourné à Brive dans sa ville
natale. Mais il en est resté le prieur. Parmi ses nombreux titres, il avait gardé le titre de prieur de Brive.
Oui, alors il a un titre qu'il voulait, dont il rêvait depuis très longtemps, c'était évidemment d'être archevêque. Il le devient justement en 1720, lui qui n'a jamais dit une messe, mais qui se prépare très soigneusement à la cérémonie qui doit le consacrer solennellement au Val-de-Grâce.
Vous vous inclinez pour baiser l'autel et vous vous dirigez vers le missel pour lire l'introit.
Ah oui. Sacerdotes tui domine indu en juste.
Merde de merde ! J'y arriverai jamais avec ce bordel d'introit.
Justicien.
Prenez patience, monseigneur, nous allons aborder des choses infiniment plus difficiles.
Ah oui, les burettes.
Dubois, si j'ai bien compris, tu vas être dans la même journée sous-diacre, diacre, prêtre, évêque et archevêque.
Je vous en prie, monseigneur, ne troublez pas la cérémonie, c'est assez difficile comme ça. Hein?
Courage, l'abbé. Profite de l'occasion pour te faire baptiser, pendant que tu y es.
Reprenons.
Sacerdotes.
Alors c'est une des scènes les plus drôles du film de Tavernier, hein, que la fête commence, Dubois, joué par Jean Rochefort, devenant archevêque et même cardinal très peu de temps après. Alors là, il atteint les sommets de la hiérarchie religieuse. Comment ça s'est fait d'ailleurs?
Alors l'archevêché est politique. Alors l'archevêché de Cambrai est très important parce que c'est un archevêché moitié français, moitié en terre d'Empire. Et comme Dubois est l'homme de la paix, il veut absolument être archevêque de Cambrai, d'une part parce que ce fut le siège de Fénelon, mais surtout parce qu'effectivement il crée le congrès de la paix. Parce qu'en fait il a fait entrer toute l'Europe, il a pacifié l'Europe et c'est le congrès de Cambrai. Donc il est l'archevêque, c'est un archevêché tout à fait politique chez lui. Cardinal, eh ben c'est tout simple, c'est le parapluie, c'est-à-dire que le cardinal, évidemment, c'est ce qui lui permet d'être à l'abri de tout. Exactement comme le cardinal de Ré, Mazarin, Richelieu. C'est cette fonction un petit peu indéfinie qui fait du cardinal un homme totalement intouchable, auquel d'ailleurs sont attachés un homme d'honneur, effectivement.
Académicien aussi. Hein,
académicien, bien sûr. Alors, il prend aussi les courses. Alors, il prend tout à la fin parce qu'il veut tout le pouvoir. Il accapare absolument. Il prend même les courses et relais de France, enfin la présidence des postes, qui n'est pas seulement le relais de poste, mais tout le contre-espionnage de l'Ancien Régime.
Et puis avec un titre considérable, c'est principal ministre, hein, c'est-à-dire premier ministre, voilà. En fait, mais ça veut dire que, au fond, et c'est ce que vous dites, Jean-Pierre Thomas, il devient même plus important que le régent. Au fond, c'est le deuxième personnage du royaume après le tout jeune Louis XV.
Après le jeune roi, oui. Disons que Philippe est très fatigué à ce moment-là. Philippe est un homme dont les abus de table et de sexe ont prématurément vieilli. Et puis, c'est un homme quand même qui aime le pouvoir, mais qui n'aime pas en assumer la réalité quotidienne. Dubois, c'est quelqu'un qui peut travailler effectivement pratiquement 20 heures par jour. Donc c'est lui qui assume ce pouvoir, mais toujours en corrélation avec le régent. Absolument.
Et cela donc jusqu'en... Et même au-delà de 1723. En 1723...
Jusqu'à leur mort,
oui, Louis XV devient majeur et il apprécie tellement les qualités du régent qu'il le garde.
Oui, en fait, Louis XV, il est majeur à 12 ans.
Oui, 12 ans. L'enfant... C'est la majorité de Louis XV. Mais en fait, Dubois reste auprès de lui. Il ne va pas rester longtemps puisqu'il meurt 6 mois après.
Il meurt 6 mois après.
Mais en 1723, au fait, là, c'est la fin de la régence.
C'est la fin de la régence, donc Dubois devient le principal ministre de l'enfant du nouveau roi de France, qui est Louis XV, effectivement. Et je pense que lui et Philippe ont pensé assurer le pouvoir jusqu'aux 20 ans du roi. Là, la maladie, naturellement, va s'empêcher.
Ce qui est extraordinaire, c'est que la majorité de Louis XV, c'est 1723, 6 mois après, c'est en février, je crois, 6 mois après, Dubois meurt dans des circonstances épouvantables.
Ah, hein, oui, on ne sait pas très bien si c'est un cancer de l'urètre ou de la vessie, ouais, enfin bon.
C'est assez pathétique.
Absolument.
Philippe d'Orléans, son complice, son ancien élève, le régent, meurt également. Toujours en 1723. Et quel est le bilan, au fond, que laissent derrière eux ces deux hommes, très décriés par beaucoup d'historiens, dont se moque un peu excessivement, mais avec beaucoup d'humour, Tavernier dans son film. Au fond, c'est un grand politique, Dubois.
Ce sont tous les deux des grands politiques, ce sont, je pense, des grands serviteurs de la France, et surtout, comme je l'ai dit, c'est la paix. Moi, je crois que le principal de leur activité, c'est la paix, ce sont des hommes de paix, et vous savez que c'est beaucoup plus difficile de faire la paix que de faire la guerre. Et je dirais que, toujours en ce bicentenaire du règne de Napoléon, où finalement on célèbre quand même un grand homme de de guerre qui a mis le feu à l'Europe. Je pense qu'on a oublié injustement deux hommes qui ont mis la paix en Europe et qui ont préparé l'Europe future. Et dont l'histoire n'a pas retenu le nom que pour, effectivement, les petits soupers. Vous savez qu'il n'y a aucune rue de Paris qui porte le nom du régent et de l'abbé Dubois.
Okay.
C'est assez, aucune. Ce qui est tout à fait scandaleux parce que 25 ans de paix, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Le prestige de Dubois à la fin de sa vie, c'était celui de Churchill après la guerre. C'est l'homme qui avait écrasé la puissance espagnole, qui était le fauteur de troubles en Europe. C'était l'homme de la paix. Et la paix, ça permettait de développer l'économie, le grand commerce, l'agriculture. Vous savez, les paysans en avaient marre de voir leurs terres ravagées en permanence. Et c'est quand même important de leur apporter cette stabilité.
Mais comment se fait-il, avec des propos aussi élogieux que ceux que vous tenez, comment se fait-il que le régent, encore, on en entend parler, pas forcément bien, mais Dubois, alors là, vraiment, je suis persuadé que la plupart de nos auditeurs, et d'ailleurs, moi-même, avant d'avoir vu le film de Tavernier il y a quelques années, j'ignorais totalement l'existence de cet abbé Dubois. Pourquoi cet oubli, alors qu'on en a retenu Mazarin, alors qu'on a retenu...
Alors, je crois qu'il y a plusieurs raisons, mais la première, c'est le grand développement du pamphlet politique qui existe à partir du XVIIIe siècle, de l'historiette légère, du comte léger, et surtout, je crois que c'est Saint-Simon qui a taillé un costume Dubois pour l'éternité.
Ouais,
Saint-Simon,
voilà.
Oui, mais enfin, Saint-Simon s'est courbé devant Dubois pendant toute sa carrière, il n'a écrit que quand Dubois fut mort.
Mmh.
Et là, effectivement, il s'est défoulé le fameux portrait où il y a peut-être quelques éléments de vrai, mais l'essentiel est, vous savez, le mot Talleyrand, tout ce qui est excessif est insignifiant, et souvent Saint-Simon est excessif, il ne faut pas le croire les yeux fermés, même si c'est un langage admirable.
Merci Jean-Pierre Thomas. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre, que je recommande la lecture, Le Régent et le Cardinal Dubois, édité aux éditions Payot, un livre qui vient de recevoir le prix Hugues Capet 2004, donc Le Régent et le Cardinal Dubois de Jean-Pierre Thomas chez Payot. Vous êtes également Jean-Pierre Thomas, l'auteur de Jean-Joseph Delaborde, banquier de Louis XV, mécène des Lumières, édité chez Perrin. Vous avez pu entendre des extraits du film Que la fête commence, bien sûr, de Bertrand Tavernier avec Philippe Poiret dans le rôle de Philippe d'Orléans et Jean Rochefort dans celui du Cardinal Dubois, un film disponible en DVD chez Canal Plus Vidéo. Vous pouvez retrouver ces références en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 32-30, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Pierre-Yves de Rollin, documentation Claire Destacan, Claire Tesser et Cédric-Joseph Julien, une réalisation de Anne Kobilac. Bonne fin de semaine à tous et à lundi avec de nouveaux sujets. Lundi et mardi, les Indiens d'Amérique. Mercredi, l'histoire du plus gros et du plus redouté des félins, le tigre. Jeudi, la traite des Noirs. Enfin, vendredi, à la veille de Noël, une histoire des saints, S-A-I-N-T-S. Il est 14h30 sur France Inter, l'heure de retrouver Eric Oswald.